savez certainement, la fête de l'Ascension, c'est une fête qui convoque en nous la vertu d'espérance. Cette vertu d'espérance qui nous appelle justement à découvrir dans les réalités d'en haut, dans la réalité céleste, quelque chose qui va bien au-delà de la réalité visible et qui en même temps l'éclaire. Le pape Benoît XVI a écrit un très beau texte, une encyclique sur la vertu d'espérance, et il dit loin de nous démobiliser du monde réel, disons concret, visible, dans lequel nous vivons, la vertu d'espérance, au contraire, nous convoque à plus d'engagement, plus d'implication dans ce monde visible. Ce qui fait que les chrétiens ont assez vite compris que le fait de témoigner de la vie éternelle consistait d'abord à s'impliquer au quotidien auprès de ceux qui sont particulièrement dans des situations difficiles, pour leur dire que la réalité ultime de leur vie et de notre vie n'est pas simplement ce monde visible. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On ne se rend pas compte des conséquences de la vie éternelle dans nos vies concrètes. Par exemple, là, je vois des enfants qui sont là, les parents qui, je suppose, aussi sont là. Vous les avez mis au monde pour la vie éternelle. Ce n'est pas pour cette vie simplement que l'on met au monde. Et la différence, ça veut dire que vous avez à cœur, dans l'éducation que vous prêtez à vos enfants, vous avez à cœur aussi de voir dans quelle mesure, avec l'âge qui leur convient, mais vous les sensibilisez à cette réalité d'en haut, à ces réalités célestes. Et pourquoi c'est important? Parce que ça nous donne justement une espérance. Si, et c'est le pape Benoît XVI qui le dit très bien, si on est uniquement, on vit simplement des espérances que peuvent nous offrir les réalités économiques, politiques ou sociales, c'est-à-dire les réalités visibles, eh bien, tôt ou tard, on tombera dans la désespérance. On tombera dans... Parce qu'on voit bien que l'homme ne peut pas sauver l'homme et que ces réalités économiques, politiques et sociales, pour importantes qu'elles soient, elle ne nous apporte pas la fin ultime de la personne humaine. Il y a en nous un désir d'infini qui ne peut être rassasié que dans le face-à-face. Ce n'est pas l'accumulation des biens visibles qui va rassasier notre soif d'invisible, l'accumulation des biens finis qui va rassasier notre soif d'infini. Donc, c'est, pour nous, en tout cas, c'est vraiment la marque du croyant. Il se sent comme une forme de tension. C'est ce que l'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. Il y a une forme de tension en nous. C'est vrai, il n'y a qu'au cimetière où il n'y a plus de tension, mais là on est complètement détendu. Mais du coup, c'est intéressant de se dire que nous, pendant qu'on est encore dans cette vie, eh bien, on est dans cette tension entre s'impliquer dans des réalités concrète et humaine, visible, et à la fois être citoyen du ciel. C'est les deux en même temps, c'est pas ou, c'est et. Et donc c'est, pour nous comme chrétiens, on a un positionnement qui est très singulier. On appartient au monde, mais on n'est pas du monde. On est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. C'est Jésus le dira lui-même dans le discours de la scène. Ça nous appelle à beaucoup d'humilité aussi, parce que ça nous appelle à nous remettre sans cesse face à l'infini qui nous attend. Ce qui fait que pour nous, la mort, c'est le grand passage, c'est le lieu de la rencontre. Ce n'est pas la fin, mais c'est le lieu de la rencontre. Et évidemment, l'ascension vient éclairer la fin de toute vie humaine. Nous sommes appelés à terminer notre vie sur Terre, mais pour le croyant, cette fin annonce aussi un commencement, annonce quelque chose qui nous emmène plus loin. Alors, c'est sûr que ça veut dire qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire que la personne humaine doit être respectée jusqu'au bout. Et on voit dans tous les débats actuellement sur les révisions des lois bioéthiques, etc., cette question... qui surgit, c'est est-ce que je crois que la personne humaine est simplement termine dans la fosse, ou est-ce que je pense que la personne humaine est appelée à un au-delà? Eh bien, ça fait une manière d'être différent au monde, mais ça fait aussi, dans les réalités médicales, de bioéthique, une attitude différente. Parce que si je pense que cette personne, elle est appelée aussi à la vie éternelle, ben, ça invite le corps lui-même à une dignité inégalée, de certaine manière, parce que nous croyons que ce corps-là est appelé aussi à ressusciter, ce que l'on va dire dans le credo. Je crois en la résurrection de la chair. C'est tout à fait... C'est vraiment deux manières de voir la personne humaine, soit d'une manière matérialiste, dans le sens matérialiste, c'est la personne humaine se réduit à la matière, est un amas de matière, et quand la matière s'effondre, toute la personne s'effondre, ou alors une dimension plus spirituelle, c'est-à-dire que nous portons en nous-mêmes une âme immortelle et éternelle, et donc quand la matière s'effondre, perdure l'âme. Et on pense bien que pour qu'il y ait une plénitude de joie au ciel, c'est aussi avec notre corps, forcément. C'est-à-dire, quelque part, c'est assez logique. C'est-à-dire, il y a pas de, si on imagine le paradis comme une plénitude, il ne peut pas y avoir de plénitude sans notre corps. D'où la dignité du corps. C'est un effet domino, je veux dire. C'est assez clair. C'est assez clair dans les deux sens. Je veux dire, c'est assez clair si on opte pour le fait de dire que le corps lui-même termine dans la fosse, voilà, si le corps termine dans la fosse, pourquoi en avoir plus de respect que ça à la fin? Et voilà, c'est mangeons, buvons, festoyons et mourons. Je pense que c'est la vie éternelle, c'est quelque chose qui, avec Dieu, éclaire notre manière de voir et fait qu'on a un positionnement par rapport à la personne humaine qui est différent. Ça, je pense, c'est vraiment de... Et ce qui a mobilisé, ce qui mobilise encore les forces des chrétiens aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont qui vont jusqu'au seuil de l'humanité, qui vont jusqu'aux limites de l'humain, où l'humain est le plus menacé, le plus bafoué, c'est précisément la vie éternelle. C'est parce que nous voulons prendre dans la globalité la personne, pas seulement la réalité terrestre, mais la réalité spirituelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'enseignement catholique et l'enseignement public? Dans les deux formes d'enseignement, il y a des très bons établissements et des très mauvais, c'est pas ça. Les professeurs sont bons ou mauvais dans les deux formes. C'est que dans l'enseignement catholique, il y a, quand c'est pris à cœur, cette dimension de l'enfant jusque dans sa vie spirituelle, jusque dans la vie éternelle. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez différent. Hein. C'est pas simplement une instruction qui va donner plus de connaissances à l'enfant. Oui, ça oui, mais aussi de dire, en tout cas dans l'enseignement catholique, on a à cœur que cet enfant-là soit sensibilisé à cette dimension d'infini qu'il habite. Alors les conséquences sont assez importantes, hein, même si ça nous paraît très loin. Les conséquences de la vie éternelle dit une manière d'éduquer les enfants, une manière soi-même de se comporter. Nos actes retentiront dans l'éternité. Ça, c'est sûr. Nos actes retentiront dans l'éternité. Ce qui fait qu'il y a une responsabilité dans la manière d'agir. Le chrétien se sent convoqué par cette transcendance et sa manière d'agir va être différente. Non pas qu'il soit meilleur ou non que d'un croyant ou d'un non-croyant, mais il va se sentir comme une responsabilité dans sa manière d'agir parce que justement il y a la vie éternelle. Et donc le fait du jugement dernier, c'est une très bonne nouvelle, c'est un lieu d'espérance, dit Benoît XVI, parce que précisément, c'est un lieu qui nous convoque à une responsabilité dans les actes que nous posons. Oh ben, c'est des choses que nous savons les uns et les autres, bien sûr, mais tout, c'est des choses qui sont à retravailler sans cesse. On voit bien que la perte de la vie chrétienne dans nos sociétés, la perte de la dimension de foi dans nos sociétés, tôt ou tard engendre un manque d'espérance, parce que c'est la perte aussi de la vie éternelle, et le manque d'espérance fait que c'est une société plus dure, moins dans la miséricorde. C'est une société d'efforts. Et ceux qui n'y arrivent pas, ben voilà, ils n'y arrivent pas. Alors, je trouve que cette fête de l'Ascension, c'est une très belle fête, qui accomplit le mystère du salut. Hein. Vous savez que ce mystère du salut qui, à la fois la mort, la résurrection et l'Ascension du Seigneur, nous sommes en Christ, présent dans notre nature humaine avec dans la Trinité. La nature humaine que le Christ a assumée, elle est assumée aussi par toute la Trinité. Ça nous donne une dignité à la personne humaine qui est considérable. Le christianisme donne à la personne humaine une dignité inégalée, absolument inégalée, sans commune mesure. Parce que précisément, nous sommes citoyens du ciel. Et donc du coup, quand ensuite on revient un peu en arrière, on dit, bah, du coup, cet enfant-là, voilà, cet adulte, cette personne en fin de vie, voir ce cadavre, eh bien tout cela a une dignité parce que nous sommes citoyens du ciel. Et c'est pour ça que dans les églises, vous verrez parfois dans certaines églises des personnes qui sont enterrées. Ou alors, souvent dans les églises de campagne, on franchit le cimetière pour rentrer dans l'église. Les tombes entourent l'église. C'est un signe très fort parce que c'est un signe que nous sommes aussi en présence de l'église du ciel. Et quand on célèbre en présence de l'église du ciel. Alors on va rendre grâce au Seigneur pour cette fête de l'Ascension, demander qu'il nous aide davantage à vivre de cette vie de Dieu et que nous soyons vraiment ses témoins. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.